cambia esta mirana. Rétrospective, l'actualité de la semaine.
Bonjour ou bonsoir selon votre position géographique. C'est le moment de suivre la rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine et coulé à la présentation. Josephine Johnson-Mondemar. Ouvrons cette rétrospective de l'actualité par ce dossier politique. Il n'y aura pas de négociation entre les partis politiques de l'opposition et le gouvernement du Burundi. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le porte-parole du président de la République, Diomède Nzaïmana, dans une conférence publique qui a été animée par les porte-paroles des institutions étatiques du pays. Le porte-parole du président le dit après une correspondance que les partis politiques de l'opposition MSD et PTD Girijambo ont adressée au chef de l'État Uhuru Kenyatta, président en exercice de la communauté est-africaine, lui demandant de s'investir pour un dialogue franc pour les élections libres et transparentes avec le gouvernement de Gitega. Le porte-parole du président a précisé que le temps des négociations est révolu. Il demande plutôt que ses partis politiques se préparent pour les élections de 2027. Écoutez-le.
Au Burundi, les partis politiques vivent en parfaite harmonie. Si un parti politique a une quelconque réclamation à rapport avec la gouvernance, je pense qu'il doit s'adresser au seul chef de l'État burundais et non quelqu'un d'autre. Je pense que cette voie empruntée passant par les négociations est très longtemps dépassée. Par contre, s'ils souhaitent participer aux élections, ils n'ont qu'à approcher le ministère concerné. Du reste, les élections de 2025 approchent, il ne faudra pas qu'ils soient en retard. Sinon, il n'y a pas de négociation entre les partis politiques et le gouvernement. Toutes les discussions et dialogues visant le bien-être de la population se déroulent à l'intérieur du pays, comme nous sommes en train de le faire pour le moment.
Au chapitre de l'éducation, désormais, toutes les classes montantes de l'école fondamentale et post-fondamentale, qui ne totalisent pas au moins 20 apprenants, seront momentanément supprimées dès la prochaine rentrée scolaire. C'est en substance le contenu d'une correspondance que le ministre en charge de l'éducation a adressée au courant de cette semaine écoulée aux différents directeurs provinciaux de l'éducation. Cette correspondance précise que la mesure vise la gestion rationnelle des ressources humaines et matérielles dans le secteur de l'éducation. Certains enseignants estiment cependant que cette mesure aura des conséquences néfastes non seulement pour les apprenants, mais aussi pour les enseignants. On fait le point avec Trifine Kaniwabu.
Dans cette correspondance du ministre de l'Éducation, François Habyarimana, il instruit tous les directeurs provinciaux à organiser des réunions avec les directeurs communaux pour la mise en application de cette mesure dès la prochaine rentrée scolaire. Certains enseignants estiment que cette mesure était bonne, mais au niveau des classes, on observait plutôt des effectifs élevés et le matériel dont parle le ministre est insuffisant.
Normalement, cette mesure d'optimiser l'utilisation ou la gestion du matériel et des ressources humaines dans le secteur de l'enseignement, c'était bon, mais apparemment, le ministère de l'Éducation continue à faire des classes pléthoriques, très surchargées. On surcharge l'enseignant, mais il n'y a pas de matériel. Sinon, une classe de 25 élèves, ce serait bon. Un nombre d'élèves facile à contrôler, à suivre, à encadrer. Envoyer ces élèves qui ne totalisent pas 25 élèves dans une classe vers une autre classe, dire qu'elles continuent à vouloir que les classes soient toujours pléthoriques, soient toujours très surchargées alors que le matériel ne suit pas.
Ces enseignants estiment aussi que cette mesure aura des conséquences néfastes pour les élèves qui seront réaffectés dans d'autres établissements. Des abandons scolaires seront enregistrés. Il en est de même pour les enseignants qui seront redéployés.
Quant à nous, les enseignants, nous voyons que cette mesure peut handicaper le métier d'enseignant. De tous les côtés, cette dernière présente des inconvénients. Pour les élèves, nous voyons que beaucoup d'élèves vont abandonner l'école parce qu'ils verront une longue distance. Sur ça, les élèves fréquentaient souvent des écoles plus proches de leur domicile, mais si cette mesure soit exécutée, plusieurs élèves vont parcourir plusieurs kilomètres. Là, c'est une raison qui leur permet d'abandonner facilement l'école. Pour les enseignants, nous voyons que c'est une forme de redéploiement. Les enseignants vont perdre leur poste d'attache. Ils vont être mutés. Pour les parents, les efforts fournis pour construire cette école vont être voués à l'échec. pour l'État. Nous voyons que plusieurs classes doivent être dans des effectifs très élevés. Là, l'encadrement sera impossible et le taux d'échec sera plus élevé.
Vous saurez que la gestion rationnelle des ressources humaines et du matériel scolaire dans les écoles figure parmi les grandes recommandations issues des États généraux de l'éducation organisés très récemment pour la redynamisation du secteur de l'éducation.
Cette décision du ministre ayant en charge l'éducation éthiologique, selon Hélène Ibidi, ancienne présidente du syndicat des enseignants STEB, elle explique qu'il faudrait plutôt décharger les classes surpeuplées.
C'est une décision qui vise seulement à chercher les enseignants, à récupérer les enseignants qui enseignent dans des classes à taille inférieure, à petite taille, et de les répartir dans les autres écoles. Ça aurait été une solution, une décision équitable si ils avaient décidé de décharger les classes qui ont des effectifs trop élevés et de répartir les élèves d'autres dans les écoles, dans les classes à effectifs faibles. Par exemple, ces classes-là qui ont 25 élèves, s'ils pouvaient être complétés jusqu'à 35-50 élèves, ce serait logique. Mais s'ils déchargent les classes à effectifs moindres et qu'ils vont les ajouter à des classes qui sont déjà surpeuplés, vous comprenez que ce serait décharger un enseignant pour aller en charger un autre. Ce serait décharger une classe, décharger un matériel scolaire et décharger les enseignants, mais pour aller les surcharger ailleurs. Alors, c'est pas logique parce que quand une classe est nombreuse et de 50 à plus, et c'est une grosse perte, même un investissement à perte, parce que l'enseignant ne sera pas capable d'enseigner ces élèves-là, et on le voit sur la qualité, sur les résultats des élèves, mais aussi sur les capacités des élèves, sur la capacité d'encadrement de l'enseignant. Ma préoccupation est que ces enfants qui seront déplacés d'une école à faible effectif, seront éparpillés dans différentes écoles avec le risque de fréquenter des écoles à longue distance. Les enseignants seront redéployés dans d'autres écoles, mais à des écoles à longue distance, au lieu de les maintenir là et de décharger le trop plein des autres écoles et des autres classes pour aller remplir les places vides dans ces écoles à faible effectif.
Inzamba.
L'autre élément qui a marqué cette semaine, c'est ce détournement de fonds dans la commune Kilemba de la province de Ngozi par l'administrateur de cette commune. Ce responsable aurait vendu des terrains appartenant à l'État et les immeubles des coopératives. Le président de la République a haussé le ton face à ces malversations. Évariste Ndayishimiye s'exprimait dans une descente qu'il a effectuée la semaine dernière à Ngozi. Les détails avec Valérie Mouch.
Pascal Sebigo, administrateur de la commune Kiremba en Ngozi, au nord du pays, est accusé d'avoir vendu illégalement deux maisons de la coopérative Akanovera. Ces deux bâtiments se trouvent sur la colline Kabari de la zone Moussassa. Elles ont été construites sur financement du projet Prodema sur un coût de plus de 100 millions de francs burundais, indiquent des sources à Kiremba. L'administrateur les a vendues la somme de 3 millions de francs. Pascal Sebigo est accusé d'avoir vendu d'autres biens de la commune, dont des terres domaniales, une camionnette de la commune et près de 819 sacs de ciment issus des contributions populaires dans le cadre du projet de soutien au développement communautaire. Samedi dernier, le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, avait donné un ultimatum à cet administrateur communal, déléguant le nouveau gouverneur de Ngozi pour vider cette question relative à la malversation économique et la vente des biens publics en commune Kiremba.
Monsieur l'administrateur, je veux qu'à mon retour, tu aies déjà restitué la maison de la coopérative. Je sais qu'il a entendu. Osez voler aux coopératives. Est-ce toi qui avais construit ce bâtiment? Comment peux-tu le vendre alors que ce n'est pas toi qui l'a construit? Tu te rends compte? Vendre une maison à 3 millions et quand l'acheteur la donne à la banque comme garantie, la banque lui octroie un crédit de plus de 40 millions. C'est vraiment honteux ce qui se passe dans cette commune de Kilemba. Monsieur le gouverneur, va voir les habitants de cette commune, qu'ils te disent tous les problèmes qui minent cette commune. Si l'administrateur doit être destitué, qu'il parte. Et si le conseil communal doit être dissous, eh bien, que les conseillers partent, puisqu'ils ne servent à rien. Kilemba est la commune où j'ai constaté le plus de problèmes. On dirait qu'elle n'a ni des conseillers communaux, ni des dirigeants. Je ne veux pas qu'il y ait encore des problèmes à mon retour. Ne m'embêtez plus, ne me fatiguez plus. Quand je reviendrai, N'hésitez pas à me dire tous les problèmes que vos dirigeants auront à vous dire, parce qu'on peut être juge et parti.
Selon toujours nos sources, les contrats d'achat-vente des maisons de la coopérative et des terres domaniales ont été suspendus par le ministère de l'Agriculture depuis le mois d'avril. Cependant, les habitants de Kiremba indiquent que les montants inscrits comme prix d'achat ne sont pas réels. Ces bâtiments et ces terres domaniales ont été vendus largement plus que les sommes déclarées. L'administrateur de Kiremba est soutenu par les ténors du parti au pouvoir Ngozi, eux-mêmes impliqués dans la vente de ce patrimoine. Les mêmes sources indiquent que le président du conseil communal, le premier à dénoncer ces irrégularités, a été chassé du conseil par le secrétaire provincial du parti au pouvoir dans cette province de Ngozi. Les habitants de Kiremba demandent que l'administrateur Pascal Sehigo soit démis de ses fonctions et qu'il soit traduit en justice. Ils s'inquiètent aussi du soutien dont celui-ci bénéficie de la part des responsables du parti au pouvoir.
Toujours sur ce dossier, les causes des problèmes auxquels fait face la commune de Kiremba, c'est qu'elle est dirigée depuis quelques années par des militants du CNDD-FDD qui, au lieu de se soucier du bien-être de la population, travaillent pour leurs propres intérêts. C'est le point de vue du président du parti Sénel, Agathon Gwasa, natif de cette commune. Il a déclaré dimanche dernier, lors de l'ouverture de la permanence de son parti à Tchamogani, en commune et province Ngozi. Suivez-le.
La commune de Kiremba fait partie des communes du pays qui ont été dirigées par beaucoup d'administrateurs depuis la création des entités communales vers les années 60. C'est un peu comme notre pays. Il a eu beaucoup de présidents, mais le développement n'a pas suivi. Moi, il y a quelque chose qui m'étonne chez nos dirigeants. Ils mettent en place des choses et après, ils viennent jeter le tort aux autres. À Kiremba, il n'y a aucun militant du CNL dans l'administration communale. On parle du conseil communal, là-dedans, il n'y a que les membres du CNDD-FDD. Mais un membre du CNDD-FDD qui tente de bien travailler en patriote, celui-là, on le malmène automatiquement avec des accusations fallacieuses et non fondées. L'exemple le plus frappant est celui de l'ancien président du conseil communal qui a été souvent malmené par des monnaies accoulées de son parti avant d'être emprisonné. Il avait été obligé de démissionner, mais je pense qu'il a été forcé de le faire. Dire alors qu'il n'y a pas de conseillers communaux, c'est faux. Nous sommes là, mais nos propositions ne sont pas prises en considération. Seules les idées des gens du CNDD-FDD comptent. Le chef de l'État ne devrait pas oublier que le secrétaire général de son parti a déclaré un jour publiquement que le parti CNDD-FDD était synonyme du pays. Vous comprenez très bien par là que les lois du pays ne valent plus rien. C'est le seul parti CNDD-FDD qui décide. Voilà donc le vrai problème auquel nous sommes confrontés chez nous à Kiremba. Si le président de la République peut faire le contraire de ce qu'a dit le patron de son parti, qu'il le fasse, et je pense que la commune de Kiremba redeviendra une commune comme les autres. Mais c'est vraiment honteux de voir des autorités qui sont incapables de sortir de leur famille politique pour être au service de tous les citoyens.
Parlons justice avant de clore cette rétrospective de l'actualité. Une peine à perpétuité, une amende de 20 millions de francs burundais de dédommagement moral. Tel est le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Kayanza dans un procès de flagrance contre Jérémy Vutigirira de la colline Nebgaï en commune Matongo. Il est accusé d'avoir assassiné un certain Denis Sabushimi qui est surnommé Bikwakwara de la colline Bandaga en commune Matongo. Le crime a été commis la semaine passée. Plus de détails avec Georges Nimenya.
À sa comparution devant le tribunal de grande instance de Kayanza, Jérémy Vutigirira a été accusé par le procureur de la République d'avoir tué avec préméditation en date du 8 juillet un certain Denis Sabushimike, alias Bikwakwara, un crime qui a été commis à coups de poignard. Dans sa plaidoirie à la barre, Jérémy Vutigirira a d'abord nié toutes les accusations, mais il a fini par avouer toute vérité au siège. Concluant son réquisitoire, le procureur de la République à Kayanza a demandé au tribunal de réprimer son crime par une peine à perpétuité contre le prévenu et le paiement d'une amende de 20 millions de francs burundais de dédommagement moral destiné à la famille de la victime. Après la mise en délibéré, le tribunal a condamné Jérémy Vutigirira à une peine criminelle à perpétuité et le versement d'un dédommagement moral de 20 millions de francs burundais conformément au réquisitoire du procureur. S'il ne verse pas sur des dommages moraux, il sera infligé une peine de servitude pénale de 100 ans. Le même jour, le même tribunal de grande instance de Kayanza a condamné un certain Jean Nyonsaba de la colline Kidunduri, en commune Kabarore, pour avoir été attrapé en date du 17 juillet courant, alors qu'il tentait d'acheminer à l'étranger 5 kilos de minerais de corombo tantalite coltan avec une machette à la main. Ce qui a été conçu par le tribunal comme une préméditation de vouloir opposer un bras de fer avec les forces de l'ordre.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine. Passez un bon dimanche chez vous. À la prochaine.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.